cette vie qui nous est rapportée dans notre texte. Donc, 2 Rois, chapitre 2. Lorsque le Seigneur fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que le Seigneur va enlever ton Seigneur, que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Et les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula, en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits, les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Jusqu'ici, notre lecture. À la fin novembre de l'an dernier, le navire français, la Jeanne d'Arc, a entamé son dernier voyage. Un tour du monde de 6 mois avant d'être démantelé. Pauvre bateau. Tout a été calculé, préparé pour ce dernier voyage. On a soigneusement choisi les escales. On a voulu résumer dans ce dernier voyage l'ensemble des missions accomplies pendant tout son service par ce bateau. On a confié aussi le navire pour ce dernier voyage à une équipe de jeunes officiers de la génération montante, une façon de dire que ce dernier périple n'est pas tourné vers le passé, mais plutôt vers l'avenir. On a aussi donné à chaque étape une dimension éducative, humanitaire, en apportant des vêtements, des livres, du matériel scolaire aux pays visités. Une façon de donner peut-être à ce navire de guerre, par son dernier voyage, une couleur positive, un point d'orgue pacifique. Lorsque le navire est arrivé au terme du voyage à Brest le 28 mai dernier, il était escorté d'une multitude de bateaux, de voiliers, attendus par une foule pleine d'émotions. Le dernier voyage était bouclé. C'est ce qui se passe ici pour Élie. C'est aussi son dernier voyage. Je ne sais pas ce que je ferais, en tout cas, si on me disait soudain, « Thierry, tu as 6 mois ou 3 mois pour réaliser un dernier voyage, pour réaliser ton dernier voyage. » Choisis ce que tu veux faire de ce dernier voyage. C'est si dur d'intégrer la fin de notre vie une réalité concrète et comme une échéance écrite sur un agenda. C'est si dur de penser que notre temps puisse brusquement s'arrêter, suspendu autour de l'éternité que nous ne voyons pas forcément, comme une roue coupée dont nous ne connaissons pas toute la suite. Nous savons tous que nous devrons mourir un jour, mais cette perspective de la mort est pour nous comme l'horizon. Il est là, devant nous, l'horizon, mais quand on avance, on peut toujours encore penser qu'il reste de l'espace. Et je crois que c'est comme cela que souvent nous vivons avec cette échéance de la mort. Nous la savons présente, mais elle reste pour nous quelque chose d'indéfini. Dans le passage que nous venons de lire, nous découvrons le dernier voyage d'Élie avant son enlèvement loin de la terre. Or, cet enlèvement d'Élie aura quelque chose d'unique, vous l'avez remarqué, parce que le prophète sera pris vers le Seigneur sans avoir à connaître la mort physique que nous connaissons tous. Il sera enlevé dans un tourbillon et introduit dans la sphère céleste sans que son corps ne connaisse la corruption. C'est un privilège qui n'a été donné avant lui qu'à une seule autre personne, Hénoc, dont nous parle le livre de la Genèse. C'est un privilège pourtant qui sera accordé à de nombreuses personnes. Je ne sais pas si vous y pensez, mais c'est un privilège qui sera accordé à de nombreuses personnes. La Bible nous dit qu'au moment où le Christ reviendra en sa gloire pour faire toutes choses nouvelles, tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus-Christ et qui seront vivants au moment de ce retour du Christ seront enlevés vers le Christ et transformés pour faire partie du cortège de ceux qui accompagneront la victoire du Christ. L'apôtre Paul nous l'affirme très clairement. Il dit, voilà ce que le Seigneur nous a dit, nous les vivants qui sont restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son d'une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par cette parole. L'expérience d'Élie donc échappe à la mort universelle, mais il ne sera pas seul. Toute une génération d'hommes et de femmes sauvés par Jésus-Christ ne goûteront pas la mort, eux non plus, seront transformés et recevront un corps approprié à la vie éternelle dans la continuité de leur vie terrestre sans la rupture de la mort. Ceci dit, en ayant souligné cette singularité de l'expérience d'Élie, il s'agit quand même pour cet homme de la fin de son voyage terrestre. Et le récit nous suggère qu'Élie, comme Élisée, savent que Élie va être enlevé au moment où il commence cette tournée dont le récit que nous avons lu nous donne le déroulement. Les membres de la communauté des prophètes qu'il rencontre parlent de cet enlèvement à Élisée, mais ils ne lui apprennent rien. Élisée dit, je le sais que c'est ça ce qui va se passer. Je le sais. Et les mots qu'il emploie suggèrent qu'ils savent que Élie sera enlevé de manière spéciale, enlevé au-dessus de ta tête et dans un avenir tout proche. Et nous retrouvons la question, que ferions-nous si l'on nous disait que c'est notre dernier voyage, notre dernière semaine peut-être sur la terre? Élie se trouve à Gilgal. Alors Gilgal, c'est près du Jourdain, tout à fait donc à l'est du pays d'Israël. Quel est son programme finalement pour ce temps qui lui reste avant d'être enlevé vers le Seigneur? Sachant qu'il a un temps qui est court, se lance-t-il dans une course effrénée pour tenter peut-être de combler tout ce qu'il n'a pas pu réaliser et dont il a toujours rêvé? On est frappé du refrain que l'on trouve dans la bouche d'Élie à ce moment-là. Que dit-il à Élisée? Il lui dit, le Seigneur m'envoie. Le Seigneur m'envoie à Bethel, vers l'intérieur du pays. Puis le Seigneur m'envoie à Jéricho, retour du côté du Jourdain. Puis le Seigneur m'envoie, dit Élie, vers le Jourdain. Autrement dit, quel est le souci d'Élie à quelques heures ou quelques jours, pendant les quelques heures, les quelques jours peut-être qui lui restent, son souci, son implication, c'est d'être là où Dieu le veut. C'est de faire ce que Dieu lui demande. C'est de marcher finalement avec Dieu et selon Dieu. Sa dernière tournée n'est pas la tournée des grands lieux où il a fait de grandes choses. Sa dernière tournée n'est pas non plus la tournée des plus beaux sites naturels du pays pour garder ça dans les yeux au moment de partir. Sa dernière tournée est simplement à l'image de sa vie, être là où Dieu me veut, faire ce que Dieu me demande, et cela calmement, et cela sereinement, dans la continuité, sans penser forcément à vouloir rattraper sur la fin tout ce qu'on n'a pas fait pendant le restant de sa vie. L'attention d'Élie, c'est sa marche avec Dieu. C'est ce qui a été le cas tout au long de sa vie, c'est ce qu'il garde encore au moment où il sait que les choses sont sur la fin. On nous dit parfois, vis le jour d'aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de ta vie. Qu'est-ce que ça signifie pour nous d'un point de vue chrétien, vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de notre vie? Je crois que c'est à la façon d'Élie qu'il faut comprendre cela. Si je savais qu'aujourd'hui était mon dernier jour, ce qui compterait le plus, l'essentiel, serait de continuer à marcher avec Dieu, pas à pas, près de lui, en étant, en faisant ce qu'il attend de moi, en ce jour, même ce dernier jour qui m'est donné. Pas de frénésie, mais une continuité et un enracinement, parce que c'est le Seigneur qui est notre vie, notre lumière, notre espérance. L'apôtre Pierre aura une pensée semblable pour les chrétiens. Il leur dit, nous attendons, selon la promesse du Seigneur, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Il dit, c'est pourquoi, mes frères, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Alors je pense peut-être ici à certains d'entre nous à qui l'âge fait entrevoir la fin possible du voyage. Et j'aimerais dire à la lumière de ce texte, attachez-vous à cet essentiel-là, dans la paix, dans la sérénité. Je pense à ceux que la maladie ou un diagnostic soudain oblige à penser concrètement leur vie comme limitée. Attachez-vous à cet essentiel-là. Faites-en l'objet de votre attention entière. Marchez pas à pas avec Dieu. Et je pense à nous tous qui croyons peut-être être en possession, en pleine possession de notre vie, mais qui finalement n'en savons rien au fond, ce que nous ne savons pas. Si notre vie nous appartient, nous ne savons pas, personne ne sait quelles sont les issues. Attachons-nous aussi à cet essentiel-là. Faisons-en la ligne, la constante de chaque jour qui nous est donnée. Élie fait donc un dernier circuit. Il le fait dans le souci de simplement marcher avec Dieu, tout en sachant que la fin est proche pour lui. Quel est-il ce circuit? Quatre repères nous sont donnés. Il part de Gilgal, donc du côté du Jourdain. Il va à Bethel, à l'intérieur du pays. Il revient à Jéricho, juste à côté du Jourdain, et il traverse ensuite le Jourdain. C'est presque une boucle depuis Gilgal et Jéricho, tout près du Jourdain, et ensuite Bethel à l'intérieur du pays. Quel est le sens de cette boucle? Certains ont essayé de penser que ça pouvait être une sorte de parcours initiatique pour Élisée, en utilisant les noms et la signification des différents lieux dans lesquels il passe. C'est un peu hasardeux. Par contre, le texte nous dit que à chacune des étapes qu'Élie fait, il y a une communauté de prophètes. Une communauté de prophètes. Il y en a une à Bethel, où il est amené à aller à l'intérieur du pays. Il y en a une à Jéricho, où il revient ensuite. Et ça nous laisse penser que cette dernière tournée d'Élie est une dernière visite à des groupes qu'il a constitués et rassemblés pour les former, pour les instruire dans les voies de Dieu, afin qu'ils puissent eux aussi enseigner le peuple. Et on découvre ici un aspect assez remarquable du ministère d'Élie. Élie n'a pas fait simplement de grands miracles, de grands événements comme ceux que l'on a pu découvrir avec le mont du Carmel, le feu qui tombe du ciel, avec la sécheresse sur le pays. Élie a aussi pensé la suite, il a aussi pensé le travail de fond, et il a voulu qu'il y ait en Israël des gens qui soient formés dans la parole de Dieu. Il les a rassemblés, ces gens, il les a instruits. D'où ces communautés des prophètes, ou ces fils des prophètes, comme on les appelle. Celle de Jéricho, vous l'avez vu, est assez nombreuse. Pas moins de 50 personnes accompagnent Élie et Élisée lorsqu'ils partent vers le Jourdain. Élie a eu à cœur d'avoir ce ministère de formation de personnes pour qu'ils soient vraiment les porte-paroles de Dieu dans ce pays où l'idolâtrie régnait. Et ça nous rappelle l'importance de la formation, de ce travail lent mais profond qui porte ses fruits dans toute une vie. Le peuple de Dieu a besoin de membres qui soient enracinés, qui soient fondés dans la parole de Dieu. Et il faut du temps, il faut du travail pour que cela se fasse, mais il faut le faire. Il faut qu'il y ait, nous avons besoin pour notre vie de nous approfondir toujours et encore dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole. Et Élie a eu ce soin-là. Et la question que j'aimerais peut-être nous poser, c'est quel temps prenons-nous pour vraiment nous former, nous approfondir dans la parole de Dieu? Quels efforts faisons-nous pour que Christ puisse être formé en nous et que vraiment nous puissions comprendre de mieux en mieux ce qu'est la pensée de Dieu? Saisissons-nous les occasions qui nous sont données pour cela? Élie a eu ce souci de former des disciples bien ancrés dans la parole de Dieu, dans une société qui était hostile, qui s'écartait complètement des valeurs du Seigneur. Nous vivons nous aussi dans un contexte comme celui-là. Tout autour de nous, avec beaucoup de moyens, s'écartent des voies de Dieu. Nous avons besoin d'être enracinés, fondés dans la parole de Dieu. Prenons la peine d'approfondir vraiment cette connaissance de Dieu. Prenons la peine vraiment de ne pas nous contenter simplement de 2 minutes le matin avec la lecture rapide d'un feuillet de calendrier ou d'un petit verset sur Top Chrétien, mais prenons vraiment le temps pour que cette parole que nous lisons puisse nous renouveler. Prenons le temps de prier ce que nous lisons pour que cela nous pénètre. Laissons la parole de Dieu nous faire changer, renouveler notre manière de voir les choses. Mettons aussi en pratique ce que nous découvrons. Saisissons les occasions pour nous approfondir, les rencontres d'études bibliques, les groupes de maison, les formations qui peuvent être proposées dans l'Église ou ailleurs, les enseignements sur CD dont nous sommes richement pourvus ici grâce au travail titanesque de notre frère Guy Sidamon. Je suis heureux que les jeunes adultes aient à cœur l'approfondissement de leur foi, prennent du temps pour cela. Pour approfondir la parole, nous avons besoin, comme Élie en son temps et dans cette société, de gens solides, de gens bien ancrés dans la parole de Dieu, pour tenir ferme, pour faire de bons choix de vie, et aussi pour être lumière, pour être témoignage, pour apporter un témoignage là où nous nous trouvons. Élie, l'homme des grands miracles, n'a pas compté sur ses miracles pour porter des fruits durables. C'est par la formation de personnes qu'il a préparé l'avenir et qu'il a voulu créer un pôle de contre-culture face à l'idolâtrie qui régnait en Israël. Voilà donc un aspect du ministère d'Élie qui ressort au travers de ce texte. Mais du coup, ce dernier voyage d'Élie prend aussi une autre dimension, plus humaine. Il va certes là où le Seigneur l'envoie, mais là où le Seigneur l'envoie, c'est aussi l'occasion certainement de revoir encore ces gens qu'il a formés, ces gens avec lesquels il a passé du temps, à qui il a certainement beaucoup donné pendant les années qui précèdent, avec qui il a beaucoup partagé. Et le Seigneur veut certainement, en l'envoyant à Tel, puis à Jéricho, là où il y a ces écoles de fils de prophètes, il a voulu certainement lui permettre de goûter encore quelques-uns des fruits de son ministère, de ces fruits durables et porteurs d'avenir. Quelques années avant, Élie, dans un moment de découragement, s'était écroulé et avait dit au Seigneur, « Seigneur, je suis resté tout seul, enlève-moi, c'est pas la peine de continuer à vivre. » Dieu l'avait rassuré, lui avait dit qu'il y en avait qui étaient restés fidèles à lui. Et une fois qu'Élie s'est relevé de ce passage difficile, il a pu utiliser la fin de sa vie à fonder ses communautés de disciples. Et il en voit maintenant le fruit, juste avant de partir d'une manière définitive. Il goûte une dernière fois le bonheur des relations tissées. Et c'est quelque chose qui compte vraiment. L'apôtre Paul, lui aussi, pareillement, vivra un moment très fort avec les responsables de l'église d'Éphèse, qu'il convoquera sur une plage à Milet. Et ce seront des moments d'adieu, des moments de souvenirs, des dernières recommandations, des moments d'affection, des moments de larmes, de prières partagées. C'est beau de voir aussi ce dernier voyage d'Élie sous cet angle de la relation, sous cet angle de la communion. Élie prend le temps. Mieux, Dieu donne à Élie du temps, le temps d'une tournée d'au revoir. Et il boucle ainsi la boucle de ses relations. C'est un beau cadeau. Un cadeau qui invite aussi peut-être à essayer de considérer l'approche de la mort lorsqu'elle se présente comme un temps où l'on peut aussi vivre un certain nombre d'accomplissements relationnels, où l'on peut chercher à boucler la boucle de ce que l'on a vécu et partagé avec les uns, avec les autres, et vivre ce temps comme justement cet accomplissement et pas seulement comme une séparation. Si quelqu'un peut-être dans notre famille est en train de partir, veillons à rendre possible de tels moments où l'on se retrouve, où l'on peut achever en quelque sorte la boucle de la relation, où l'on prend le temps de dire, de se dire ce que l'on a à se dire, de vivre ensemble ce qu'il y a à vivre pour accomplir la relation, l'amener à faire un tout, si ça nous est donné. L'attachement donc est Dieu qui permet à Élie avant de partir, de boucler cette boucle de ses relations. Mais l'exemple le plus fort d'attachement en ces derniers moments est donné par Élisée. Élisée appelé à prendre la suite du ministère d'Élie. Une génération sépare certainement les deux hommes. Élisée appelle Élie mon père, et c'est probablement pas seulement une marque de respect, ça dit aussi probablement la différence de génération. Mais on découvre entre ces deux hommes une relation, un attachement profond. Alors le mot attachement peut vous sembler malvenu si on regarde un petit peu les paroles d'Élie, parce qu'on a l'impression plutôt que Élie semble vouloir se détacher d'Élisée. Parce qu'à plusieurs reprises, il lui dit, écoute Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie là-bas. Peut-être que Élie veut surtout éviter à Élisée une séparation qui serait trop brutale s'il était enlevé soudain. Ou peut-être une tristesse prolongée d'étape en étape. Élie ne veut pas être lourd alors qu'il sait qu'il doit partir pour son jeune collègue. Alors il propose un au revoir et il se propose de continuer tout seul son chemin. Et c'est probablement mesure un peu de sensibilité à l'égard d'Élisée qu'Élie manifeste à cet endroit-là. Mais à chaque fois, Élisée choisit de rester. Et Élie ne le rejette pas, loin de là. Élisée fait preuve ici d'une belle persévérance et d'un attachement véritablement fidèle. Il nous rappelle qu'il nous faut parfois, dans l'amour, savoir un peu dépasser, par amour justement, certaines barrières que peuvent mettre comme Élie et des personnes que nous connaissons. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va, je me débrouillerai tout seul. On entend parfois cela. Ces mots sont souvent des paroles de pudeur ou de beaucoup plus que de refus de voir la personne. Et il faut parfois sentir ces choses pour quand même oser aller plus loin, comme le fait ici Élisée, mais le faire tout en restant respectueux et attentif à la personne. Élisée, en tout cas, vit ce dernier voyage comme l'occasion de dire à Élie son attachement jusqu'au bout. « Je ne te lâcherai pas », dit-il en substance à Élie. Et lorsqu'ils arrivent à la toute dernière étape, ils ne sont finalement plus que deux, lui, Élie et Élisée. Et nous avons là une belle image une belle image de l'amitié, des liens profonds qui peuvent se tisser dans nos relations fraternelles, dans ces longues, dans ces belles complicités partagées sur des années, dans des collaborations harmonieuses et loyales dans l'œuvre du Seigneur. Et cela nous invite et nous encourage à travailler aussi, à construire, à maintenir ces liens, ces complicités que l'on peut vivre dans l'Église, que vivre dans le service du Seigneur, dans la durée. Elles sont un vrai trésor. On le voit ici au moment où on est à la toute dernière étape. Et voici donc maintenant Élie et Élisée ensemble pour cette toute dernière étape. Ils ont franchi le Jourdain et le symbole est fort. La mort est souvent comparée à un fleuve, aux grandes eaux qu'il faut traverser. Le Seigneur permet à Élie de faire un dernier miracle. Lorsqu'il frappe l'eau du Jourdain avec son manteau, la rivière s'ouvre et laisse le passage. Et c'est un signe fort. Le Seigneur montre qu'il est celui qui ouvre un passage, même au travers de la mort qui est là, représentée par ce Jourdain. Le signe rappelle aussi celui de la mer Rouge, franchie elle aussi à sec lors de la délivrance d'Égypte. Et la mer Rouge franchie sous Moïse évoque le salut qui est donné et qui permet aussi d'échapper à la condamnation qui peut être franchie de cette façon-là. Après les 40 ans d'Israël, qu'Israël avait passé au désert, Josué avait fait également franchir le Jourdain à tout son peuple. Et là, ça avait une autre signification, c'était enfin l'entrée dans la terre promise. Et tous ces symboles se mêlent et s'enrichissent ici, à cet endroit-là. Élie quitte la terre d'Israël où il était, franchit le Jourdain, il la quitte pour la vraie terre promise où il sera avec le Seigneur. Et lorsqu'il fait ce mouvement, le Seigneur lui promet qu'il lui ouvre la route par un geste qui rappelle celui de Moïse. Tout comme le Seigneur est celui qui nous sauve, et nous savons qu'il nous sauve en Jésus-Christ, de même, il veut être celui qui nous accompagne, qui ouvre un chemin au travers de la mort, et celui qui ouvre ce chemin vers la patrie céleste qu'il nous donne en héritage éternel. Et c'est tout cela qui se retrouve d'une certaine façon condensé dans ce geste où Élie ouvre, où le Seigneur ouvre les eaux du Jourdain pour Élie qui va monter vers lui. Élie ici annonce ce qui se trouvera son fondement et son accomplissement dans l'œuvre de Jésus-Christ, car c'est Jésus qui est source de salut pour tous ceux qui croient en lui. Et c'est Jésus qui est le chemin vivant ouvert au travers de la mort par sa résurrection d'entre les morts après avoir pris sur lui la peine de nos péchés. Pour Élie en tout cas et pour Élisée, franchir le Jourdain, c'est dire que l'on est maintenant dans la toute dernière étape. Le départ d'Élie est imminent. Élisée seul est présent, les 50 sont restés de l'autre côté, sur l'autre rive. Et ça nous rappelle que les derniers moments d'une vie demandent de l'intimité, une présence attentive, un cœur à cœur. Élie prend la parole. Il va partir, mais il est calme et lucide. Et il propose à Élisée de lui demander une dernière chose avant qu'il ne soit enlevé loin de lui. Comme tous ceux qui s'en vont, Élie a le souci de ceux qui restent. Élisée, quant à lui, c'est que le départ d'Élie va signifier pour lui une immense responsabilité. Et il demande donc à Élie d'être revêtu du même esprit qui a animé, qui a inspiré, qui a soutenu Élie pendant tout son ministère. Alors le texte a une formule ici qu'il faut bien comprendre. Élisée dit « Donne-moi une double part de ton esprit ». Qu'est-ce que cela veut dire, une double part de ton esprit ? Est-ce que ça veut dire que l'esprit se donne en part, certains chrétiens ou serviteurs de Dieu ayant une part, d'autres ayant le double, d'autres le triple, d'autres le quadruple ? Le sens de cette expression est à chercher ailleurs. En effet, la loi de Moïse disait que, dans une fratrie, l'aîné devait recevoir en héritage le double de tous ses frères. Donc quand on parle d'une double part, on envisage l'idée d'un héritage qui est laissé en tant que celui qui vraiment prend la succession. Et je crois que c'est ça le sens de la demande d'Élisée. Il sait qu'il va être le successeur d'Élie et il demande vraiment d'hériter de sa part, comme celui qui est son successeur légitime aussi, cette pleine part, cet héritage de son esprit. Il le demande comme un héritage en quelque sorte. Et c'est assez remarquable de voir que de la part d'Élisée, il est prêt à accepter la fonction, la responsabilité de prendre la suite d'Élie, mais en même temps, il dit, j'ai tellement besoin d'être équipé pour cette responsabilité. Lorsque Élie reçoit cette requête, sa réponse est très sage. Il dit, c'est quelque chose de difficile. Autrement dit, c'est quelque chose qui n'est pas dans mes capacités. Cette requête, c'est Dieu seul qui peut l'exaucer. Moi, je ne peux pas commander cette chose-là. Élie a l'humilité de ne pas se considérer comme propriétaire de l'esprit qui l'animait. Il se rappelle que Dieu est et que Dieu reste souverain dans les dons qu'il fait aux hommes. Et là, il y a une sagesse, une distance, une humilité chez Élie qui est remarquable. Il ne s'est pas identifié à sa puissance. Il n'a pas pensé qu'elle était la sienne et qu'il pouvait lui désormais s'en servir pour en faire ce qu'il voulait. Par contre, ce qui est remarquable aussi, c'est que Dieu a accédé à cette requête d'Élisée. Autrement dit, ça nous rappelle que Dieu aime celles et ceux qui sont prêts à accepter des responsabilités. Lorsqu'Élisée demande comme héritage l'esprit d'Élie, ça veut dire qu'il accepte la responsabilité de prendre la suite. Et Dieu aime celles et ceux qui sont prêts à accepter des responsabilités, même si on se sent insuffisant à la tâche, même si cela coûte peut-être. Et Dieu ici manifeste qu'il a le désir d'aider, d'équiper, de soutenir efficacement ceux qui sont prêts à s'engager. Et je crois qu'il y a là un encouragement aussi pour nous dans notre vie avec Dieu. Si nous voulons, si nous sommes prêts à avancer, si nous ne sommes pas toujours en train de reculer ou de fuir aux abonnés absents dès qu'il y a un appel pour avancer avec le Seigneur, si nous sommes prêts à cela, nous pouvons avoir confiance aussi que Dieu donnera les ressources. Et maintenant, c'est le départ d'Élie. Un dernier mot, juste sur ce départ d'Élie qui est enlevé au ciel sans connaître la mort. Est-ce qu'il s'agit juste d'un épisode un peu bizarre qui fait partie du côté un peu exotique de la Bible? Je crois qu'il nous faut d'abord recevoir cet épisode comme un signe de la liberté de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est la règle universelle, et c'est Dieu qui applique cette règle universelle. Mais Dieu qui veille à cette règle pour l'humanité reste libre d'agir à sa façon et de faire grâce. Et ici, on voit qu'avec cette exception d'Élie, tout comme l'exception d'Enoch, le Seigneur ouvre une fenêtre en quelque sorte vers la grâce, une fenêtre vers ce qu'il peut faire de plus que ce salaire du péché qui est la mort. Mais nous savons qu'en Jésus-Christ, le Seigneur fera bien plus que d'ouvrir une fenêtre vers la grâce et vers les plus qu'il apporte. En Jésus-Christ, le Seigneur ouvrira un chemin, une règle nouvelle de vie, en disant que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus pour le pardon de leurs péchés, pour recevoir la vie éternelle, tout cela seront au bénéfice de ce chemin que le Seigneur a accepté de tracer au travers de la mort qu'il a vaincu par sa résurrection. Donc la liberté de Dieu pour faire grâce, une fenêtre ouverte là avec Élie avant le chemin ouvert en Jésus-Christ. En même temps, deuxième remarque que j'aimerais faire sur ce départ, nous avons ici l'image de ce qu'est un enlèvement auprès de Dieu ou une fin de vie terrestre, mais sans le côté noir de la mort. Il y a un côté sombre de la mort, ce corps de la personne par laquelle on était relié à elle, ce corps qui est laissé sans vie. Il y a là quelque chose de, qui fait tellement mal, il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui est délaissé. La vie qui s'achève dans cette décomposition du corps, dans cette séparation du corps et de l'âme, et même si l'esprit retourne à Dieu qui l'a fait, il y a cette réalité-là du corps qui demeure. Réalité sombre de la mort. Mais la question c'est que reste-t-il lorsque ce côté sombre de la mort n'est plus? Il reste la réalité d'une séparation, et on le voit ici entre Élie et Élisée. Mais d'une séparation que l'on sait vraiment lumineuse. Une séparation que l'on sait être vraiment l'entrée dans une vie et dans une dimension plus riche, infiniment plus belle, infiniment plus lumineuse. Et je crois que nous avons, avec l'enlèvement d'Élie, juste un flash sur ce que peut être ce versant lumineux de la mort pour ceux pour qui cette mort signifie l'entrée dans le royaume de Dieu. Et je crois qu'il est bon de nous rappeler que si la mort est d'un côté un ennemi, ça on ne l'oublie jamais, la mort revêt aussi par la grâce de Dieu en Jésus-Christ un aspect qui est magnifique et lumineux lorsque l'on pense à ce que signifie pour celui ou celle qui est parti uni à Jésus-Christ être introduit dans la présence même et la lumière du Seigneur. Et je dirais que sans supprimer l'aspect négatif de la mort, il ne nous faut pas oublier cet aspect lumineux pour ceux qui seront sauvés, bien sûr. Car nous savons que pour l'homme sans Dieu qui a refusé la grâce et le salut de Dieu, la mort est l'attente du jugement et non cette lumière. Mais je crois que c'est bien d'avoir aussi cet aspect d'un départ vers Dieu dans la lumière qui nous est donné ici, parce que c'est une facette de la réalité pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Enfin, je voudrais faire une dernière remarque sur la façon dont Élie a été enlevé. Il n'a pas été happé par une main invisible, mais il y a eu, nous a-t-il dit, comme une sorte de char, comme une sorte d'attelage glorieux qui l'a pris et qui l'a emmené jusque dans la sphère céleste. Élisée parle d'un char, parle d'une cavalerie. Autrement dit, des êtres célestes sont venus pour prendre Élie et pour l'accompagner jusque dans la présence de Dieu. Et je crois que c'est une manière de montrer la façon dont Dieu a honoré son serviteur qui s'était tenu debout pour lui en des circonstances bien difficiles. Mais je crois aussi que c'est un indice du fait que le Seigneur sait accompagner ceux qui entrent dans sa présence au moment de la mort. Le Seigneur sait envoyer ses anges comme messagers du monde céleste à la rencontre de ceux qui sont en train de partir vers lui. Alors nous disons souvent, le Seigneur est là avec ceux qui meurent. Je crois que c'est vrai, c'est la réalité fondamentale. Mais je crois qu'il y a place aussi pour une autre idée qui est de dire que Dieu sait d'une certaine manière, quand il le veut certainement, accompagner ceux qui partent vers lui par des êtres célestes, les anges qui sont ses messagers. Jésus a une parole très, très intéressante, mais très nette aussi à cet endroit, lorsqu'il parle de la mort du pauvre Lazare. Il est dit, le pauvre Lazare donc mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Étonnant, j'ai découvert ça il y a quelque temps, en réfléchissant à ces choses-là, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est le Seigneur Jésus qui dit cela. Un chrétien ne meurt pas seul. Le Seigneur est là, présent, mais le Seigneur a aussi, s'il le désire, d'autres ressources pour accompagner. Alors on entend parfois des récits de chrétiens qui, au moment de mourir, se sentent comme appelés, comme accompagnés par des êtres lumineux, quand des choses comme ça peuvent s'exprimer parfois au tout dernier moment. Ne nous fermons pas à ces réalités-là. Je crois que ça nous dit simplement, sans trop spéculer, mais que le Seigneur a des ressources pour permettre que ceux qui s'en vont vers lui puissent aussi être comme accompagnés, bienvenus vraiment, de manière large, pour entrer dans sa présence, dans sa lumière. Alors je ne veux pas terminer sur cette note simplement qui parle de la mort, mais je crois en tout cas que l'enlèvement d'Élie montre la façon dont le Seigneur a voulu honorer son fidèle serviteur qui s'était tenu debout courageusement en des temps difficiles. Alors, je nous encourage aussi, fort de cette certitude de la fidélité de Dieu, à nous tenir nous aussi droits, debout, pour le Seigneur, comme des témoins fidèles dans la génération qui est la nôtre, et en étant aussi confiants, pleinement confiants, dans toutes les ressources de la présence de Dieu, de son esprit, de ses ressources, de sa fidélité. Amen.